Salut Daniel, c'est Benjamin. Je viens juste pour te dire, en tout cas, quelque chose qui s'est passé aujourd'hui à Montréal, dont on entendra peut-être peu parler, qui est pourtant important. Souviens-toi, tu étais venu faire la série d'émissions sur le printemps érable ici au Québec. Et aujourd'hui, la nouvelle première ministre qui vient d'arriver en prise de fonction dès son deuxième jour, alors que l'ancien premier ministre déchu avait déclaré des élections à cause du mouvement étudiant. Donc cette nouvelle première ministre, Pauline Marois, dès son deuxième jour, vient d'annuler par décret la hausse des droits de scolarité qui était l'enjeu majeur des manifestations. Elle a également abrogé une partie de la loi contre les manifestations. Et puis comme ce mouvement étudiant s'était étendu à toute la société civile, il y avait aussi des manifestants pour des questions environnementales. Elle vient aussi d'annoncer son opposition au gaz de schiste, ainsi que le démantèlement d'une centrale nucléaire. Alors tout ça pour dire, comme tu l'avais souligné dans une émission avec le poète québécois Gaston Miron, eh ben ça ne pourra pas toujours ne pas arriver. Et aujourd'hui, je crois qu'on est arrivé à un petit quelque chose. Ces manifestations, elles ont servi à quelque chose. Puis il y a plein de mais, c'est sûr, il faut rester vigilant. Mais c'est ça, je pense que c'est important de le souligner. Ça a été des énormes manifestations. Et puis ce qu'on doit en retenir, c'est que, eh bien, vraiment, elles ont servi à quelque chose. À bientôt. Au revoir.
C'est marrant parce que je viens de mettre la date sur une feuille sur laquelle j'allais écrire. Et alors je dis, tiens, je me dis, 20 septembre, 20 septembre 2012. Eh bien, il y a 20 ans, c'était un dimanche, le 20 septembre. C'était le jour du référendum pour l'adhésion au traité de Maastricht. Ça fait 20 ans déjà. Et voyez où on en est depuis 20 ans. On en est à adhérer au pacte budgétaire européen qui signifie l'austérité, avec ou sans référendum d'ailleurs. Bon, et voilà. Mais ça fait déjà 20 ans qu'on est dans cette galère-là.
Lundi, j'ai dû me séparer d'un compagnon de travail. On faisait équipe depuis 14 ans. Quand un veau était patraque, il veillait sur lui, même la nuit. Il avait l'œil à tout. Une année, il y a longtemps, on a passé 4 jours sur la côte atlantique. Il n'avait jamais vu la mer avant. Tout ce temps ensemble, et puis voilà, faut se quitter. Pierre m'a dit, vraiment, il n'y a pas d'autre choix. Alors doucement, il l'a endormi pour toujours. Adieu, mon tout beau. Tu as été le meilleur des chiens. C'était Christine du Limousin.
Oui, bonjour Daniel. Manager de transition, quel noble métier. Oh, quel noble métier. Des gens qui sont payés à foutre des ouvriers à la rue sans rien. Et ils en parlent si bien en plus. Oh, ils sont passionnés, hein. Ils en parlent même en riant, hein. Il a même dit, celui qui parlait à l'antenne, pour moi c'est comme un jeu, et puis bon, c'est une mission que j'accomplis au nom de l'actionnariat. Ah oui, pour faire crever des ouvriers de faim, franchement, mais s'il y en a qui écoutent France Inter, des managers de transition, mais vous n'avez pas honte, vous n'avez pas honte, regardez-vous dans une glace, et si un jour vous êtes à la rue, et alors, vous êtes les putains de l'actionnariat. Voilà, c'était Stéphane de Terdonne. Au revoir.
Quel régal, quelle joie cette émission, Eric Hobsbawm. À la Révolution française, fantastique. Le petit clin d'œil à Gilles Cotteron avec The Revolution Will Not Be Televised. Super génial. Et tiens, pour rebondir sur l'actualité, Charlie Hebdo, le chantre de la liberté d'expression, c'est dans être ciné qui doit mourir de rire. Allez, salut à vous, Ali de Reims.
Merci pour tous ces messages, chers AMG, messages qui me parviennent ici à Salt Lake City. Salt Lake City, capitale de l'Utah. Salt Lake City, capitale des Mormons. Mormons, la religion de Mitt Romney, le candidat républicain à la présidence des États-Unis d'Amérique. Voilà pourquoi nous sommes là, pour comprendre, essayer de comprendre un peu le monde des Mormons. Nous avons quitté Las Vegas sans aucun plaisir. Une ville absolument épouvantable, étouffante et surtout qui pue. On n'a jamais dit ça, je crois, d'aucun endroit où nous sommes allés dans le monde. Blaise Cendrars disait « Je reconnais toutes les villes du monde à leur odeur ». Eh bien, Las Vegas a une odeur épouvantable de déodorant de toilette mélangée à une odeur de tabac froid et de moquette moisie. C'est absolument épouvantable que cette ville, avec toute cette chaleur, il fait au moins 40 degrés à Las Vegas, une fournaise, des gens qui errent, qui flottent, les animaux tristes et obèses, un décor d'une indigence boursouflée, de nouveaux riches. Nous étions dans le rêve esthétique d'un Sarkozy ou d'un W. Bush. C'est absolument épouvantable que cette ville de Las Vegas. Mais une chose, cependant, nous a consolés, c'est le mouvement social à Las Vegas. Je le disais l'autre jour, les syndicats sont très organisés et très puissants. Et on a rencontré des travailleurs, une travailleuse, Myrna Preciado, qui nous a raconté une lutte extraordinaire qui a duré exactement, tenez-vous bien, 6 ans, 4 mois et 10 jours. 6 ans, 4 mois et 10 jours pour obtenir quelques droits sociaux contre un hôtel casino qui s'appelait Frontier. 6 ans, 4 mois, 10 jours, et chaque jour, les travailleurs manifestaient en disant « one day longer, un jour encore ». Et finalement, en 1998, ils ont obtenu gain de cause. Voilà de quoi nous requinquer quelque peu et partir du bon pied ou de la bonne oreille pour l'émission d'aujourd'hui. Si l'argent ne fait pas le bonheur, rendez-le. On parle souvent du capitalisme quand même, dans la base où j'y suis, et parfois on pourrait croire qu'il en existe un bon, le mauvais capitaliste, le greed, l'avide, et puis celui qui aurait un visage humain, un visage un peu familial, paternel pour tout dire. Eh bien on va voir si c'est possible, si ça existe vraiment au cours de cette heure que nous vous avons concoctée. Auparavant encore quelques messages parmi ceux que vous avez laissés dans boîte vocale au 01 56 40 37 37.
Salut Mermet, c'était pour te signaler que à Metz, juste à côté d'une grande école de la République, sur le trottoir de cette école, tous les jours des Roms font leur lessive et viennent chercher de l'eau depuis le camp voisin. Des élèves futurs fonctionnaires les voient passer tous les jours et c'est quelque chose qui me retourne moi personnellement. Voilà, bonne journée à vous.
Salut Daniel, alors je voudrais te remercier pour tes émissions en général. Et avant tout, je voudrais mettre à l'honneur le maire de Gardanne, dans les Bouches-du-Rhône. Il a tout simplement accueilli une bonne partie des Roms que le maire de Marseille a expulsé suite à une décision de justice. Le maire et puis Monsieur Valls, le ministre de l'Intérieur. Donc le maire de Gardanne, il les a accueillis. Il leur a donné un terrain, donc c'est provisoire, mais bon, il les a quand même accueillis. Il leur donne de l'eau, des couches, des aliments. Les AMAP se sont réunis pour donner à manger à tous ces gens qui sont démunis de tout. Il a scolarisé les enfants, donc voilà, je voudrais parler de ce maire. Et je suis content d'habiter dans cette commune et de voir cette mairie qui s'est occupée de tous ces gens-là. Donc voilà, c'est ça être de gauche, monsieur Valls. Être de gauche, c'est partager. Être de gauche, c'est penser au bien commun. Voilà, c'est tout le contraire de ce que vous faites. Et cette mairie, je voudrais la mettre à l'honneur parce que, bon, ils n'ont rien fait d'extraordinaire, ils pensent à l'autre. Il pense à l'être humain. Donc voilà quoi. Salut.
Qu'est-ce que vous enlevez là ?
La photo de Mullier.
C'est Gérard oui. Mullier ?
C'est Gérard Mullier.
La honte, c'est des gens comme ça qui sont la première fortune de France, que moi j'évalue à 25 milliards et qui jettent des gens sur le pavé pour se faire de plus en plus de fric et qui osent dire encore derrière. Qui privilégie l'homme à la place du fric.
Les Pinky en grève illimitée existent, prime licenciement, on réclame ça. L'Empire des Milliers doit casquer, mais bon, ils n'ont pas casqué. Hein. Ils ont gagné.
C'est un licenciement familial. Je t'appelle par ton prénom et puis je te dis, tu t'en vas.
C'est un menteur.
Pourquoi ?
Parce qu'il disait que c'était une grande famille au champ. C'était. Oui, c'est familial et c'est faux. En fait, on s'aperçoit que tout ce qui intéresse la famille Mullier, en gros, c'est de gagner des sous, c'est tout.
Mais attendez, on ne peut pas donner des leçons comme ça. Le capitalisme, c'est fait pour faire du fric. Gérard Munier est un capitaliste et il se fait que du fric. Point.
Est-ce que vous me tenez le poste le temps que je sorte ma calculatrice? Vous me tenez le poste? Là, je sors ma calculatrice.
Elle s'est déjà reclassée. Elle s'est déjà reclassée.
Et voilà, elle s'est déjà reclassée à la radio.
Salut, c'est Daniel Mermel, à base J'y suis. Si l'argent ne fait pas le bonheur, rendez-le. Une enquête de l'inspecteur François.
Flight number 2, arriving from...
Vos chaussures gratuitement. Vos sacs de course vous encombrent. Le Bon Marché propose des consignes gratuites ou encore des livraisons à domicile sans frais à partir de 230 euros d'achat. Autre service très en vogue en ce moment, le personal shopper, un acheteur personnel qui vous accompagne. Ainsi, une société propose par exemple de vous emmener faire vos courses en limousine avec votre styliste personnel. Un service soldé à 250 euros la demi-journée. Sandy Dauphin, France Bleu pour France Info.
Pour le prix, il faut espérer qu'on vous ramène chez vous après la demi-journée. Les soldes d'hiver devant tout.
Daniel, moi aussi aujourd'hui, en ce premier jour des soldes, je vais aller faire des emplettes. Je vais aller faire mes soldes chez Pimki. Pimki, dans le nord de la France, là, on est sur l'autoroute A1 entre Paris et Lille. Et on approche de Lille, de Roubaix. Donc chez Pimki, une enseigne de l'empire mulier, c'est-à-dire le capitalisme à visage humain, le capitalisme familial, il y a le méchant capitalisme, hein, le capitalisme des fonds de pension, le capitalisme qui se trouve à New York, où les traders se payent des yachts, des gourmettes énormes. Et puis, il y a le capitalisme gentil, qui respecte les salariés, qui font un peu partie de la famille, que les patrons connaissent par leur prénom, on demande des nouvelles du fils... Et quand il doit se produire un licenciement, malheureusement, eh ben ça arrache le cœur de ce patron chrétien qui va à la messe tous les dimanches et qui dit bien que bon ben il faut faire passer, hein, dit Gérard Mullier, il faut faire passer l'homme avant le fric.
Eh oui! Il y a une leçon dans cette crise économique que nous vivons, certains, et d'autres l'ont vécu, et d'autres ne l'ont jamais vécu. Il y a quand même une leçon à tirer, c'est qu'il y a un capitalisme méchant, avec des bonus, avec des tas de choses épouvantables, et puis le capitalisme gentil, à la française, à l'ancienne, familial, fait à la maison, comme ça, où on se connaît... On se croise peut-être même à l'église, et oui, il y a un capitalisme chrétien, il y a ce bon vieux capitalisme français baptisé paternaliste, où les caissières sont actionnaires, où on connaît les enfants et les petits-enfants de ce bon vieux Dédé. Oh, quel merveilleux salarié c'était Dédé, quel fidèle employé c'était Dédé. Eh bien, il y a encore ce capitalisme-là en France, c'est encourageant, c'est certainement encourageant. En tous les cas, c'est celui de la famille Mulliez, Auchan. Mais vous allez voir que c'est pas seulement Auchan, vous le savez d'ailleurs peut-être, c'est un honneur pour notre pays que cette grande fortune, une des plus grandes fortunes qui soit, eh bien, ce soit une émanation de ce gentil capitalisme familial à la française. Alors là, il y a eu un petit incident, mais enfin qui n'a pas duré bien longtemps, dans le Nord, chez Pimki, vous savez, les petits vêtements charmants pour les jeunes. Eh bien, à deux jours des soldes, notre inspecteur François passait par là, et qu'est-ce qu'il a vu? Des salariés qui brandissaient la menace d'un défaut d'approvisionnement des magasins pour obtenir une hausse. De quoi? De salaire? Ah ben non, ça c'est fini, salaire c'est terminé, elles sont toutes virées, mais pour leurs indemnités de départ. Et elles ont gagné, bien évidemment, le tellement généreux, ce bon vieux capitalisme gentil à la française, qu'elles sont parties avec ce qu'elles demandaient. Enfin, pas tout à fait ce qu'elles demandaient, mais plus que ce qu'on leur avait proposé au départ. C'est pas gentil ça? Une heure de bonheur dans La Basse J'y suis, jusqu'à 16h, sur France Inter, le gentil capitalisme.
Il est interdit d'arrêter de travailler, il est interdit de parler et de chanter, il est interdit de lever le nez de la journée. Lorsque l'on est ouvrière, ouvrière, un atelier, le règlement est sévère et l'on doit s'y conformer. Si on était millionnaire, ce serait la liberté, mais on est des ouvrières, ouvrières en atelier. Aucune importance quand on aime, on danse sur un, deux, trois, quatre temps.
C'est la plus grande fortune professionnelle de France, le fondateur dans le nord du groupe Auchan, un groupe détenu par la famille Muliez et près de 500 de ses membres. Le symbole d'un capitalisme familial, rencontre avec son patriarche.
La chaîne parlementaire.
Un homme d'affaires, c'est presque affairiste.
6 janvier 2009.
Et vous n'êtes pas un homme d'affaires, vous ?
Non, je ne suis pas un homme d'affaires, je suis un constructeur d'entreprise.
Gérard Mulier.
Je n'ai pas fait ça pour faire de l'argent, et c'est ça mon éthique. C'est ça l'éthique de ma famille et nous souhaitons que ça continue. Vous savez, quand j'étais jeune, mon père disait, tu sais, il faut réfléchir. Est-ce que l'argent qui est mis sur notre nom, que nous avons gagné, est-ce qu'on nous l'avons gagné parce que nous étions plus malins et plus travailleurs que les autres ? Sans doute un peu. Et peut-être aussi parce qu'on n'a pas assez payé notre personnel.
Hein ? On peut l'enlever, ce bazar à la con. On peut même le jeter. Oh non.
Non, pas respect pour
Ursula.
Ouais.
Parce que Ursula, elle avait quand même...
Elle
avait quand même bien travaillé. Hein. Mais bon.
Qu'est-ce que vous enlevez, là ?
La photo de Mulier.
C'est marqué quoi ? Il y a...
Les Pinky en grève illimitée existent, prime licenciement. Bon, on réclame ça. L'Empire des Muliers doit casquer, mais bon, ils n'ont pas casqué. Hein. Ils ont gagné. Ils ont gagné.
Alors ça, c'est le patriarche, c'est Gérard Mulier.
C'est Gérard Mulier.
Alors vous lui avez mis... il a été photoshopé dans un tas d'or.
Ouais, voilà.
Il nage dans l'or.
Et lui, il nage dans l'or, mais pas nous. Hein.
Et puis il a un t-shirt avec le Auchan.
Auchan, bah oui. Hein, parce que...
Et l'oiseau de Auchan, le petit moineau de Auchan.
Ouais, parce que c'est Mulier aussi, ça, Auchan. Hein. Bah, c'était une personne qui l'avait fait, c'était son mari qui l'avait fait, ça. C'était super gentil. Elle va être déçue, hein, notre mère. Ouais. On va rentrer avec ça demain. C'est vrai, il faut rentrer avec ça demain, au travail. On a le boulet, alors on va rentrer avec ça.
Vous avez le boulet, c'est-à-dire ?
C'est vraiment avec le cœur gros que demain on reprendra. Vraiment, oui. Parce que pour nous, on n'a pas gagné la bataille. Pour nous, non. Non.
Ça fait que bon, nous, on voulait surtout, c'était nos jours de grève de payer. Et on n'a que 4 jours de payer sur 3 semaines de grève.
Elles sont amères, hein ? Elles sont amères, ces petites ouvrières. C'est quand même dommage parce que, en général, dans les entreprises de la famille Mulier, tout se passe bien. On vient d'entendre Gérard Mulier, le patriarche légendaire. Et généralement, les choses se passent bien. Bon, c'est un petit incident, c'est en voie de règlement, très probablement. Les Mulier, c'est cette austère et très secrète famille du Nord, nous dit Paris Match, où ce n'est pas un homme qui décide, mais les 500 descendants de l'ancêtre Louis Mulier, ou Louis Mulier-Lestienne, réunis depuis 50 ans au sein d'un pacte inaliénable et tout-puissant. En 47 ans, Gérard Mulier a fait d'Auchan la 88e entreprise mondiale, la 11e entreprise française, un empire de quelques 1000 magasins réalisant 30 milliards d'euros de chiffre d'affaires et la fortune de sa famille est évaluée à 17 milliards d'euros. C'est ainsi que les choses se sont passées. Alors, rapide portrait de Gérard Mullier, autodidacte, mais intuitif et énergique. Il est tout fait chez Fildard, vous vous souvenez, Fildard, Hélène Fildard à Roubaix. Eh bien, il est tout fait dans cette entreprise. C'était une entreprise qui appartenait à son père. Et il part pour les États-Unis et il découvre quoi donc là-bas ? Le discount ! Et il revient, il installe son premier magasin dans une usine désaffectée du quartier des Hauts-Champs près de Roubaix, sa ville natale. C'est un visionnaire et c'est lui qui invente les centres commerciaux près des hypermarchés où il installe de multiples enseignes, Leroy Merlin, Boulanger, Pimki, Flunch, etc. Mais il faut vous dire que c'est un catholique convaincu, élevé dans une école religieuse. Il met en place un actionnariat pour les salariés qui sont propriétaires aujourd'hui de 15% d'Auchan. On se demande de quoi ils se plaignent. Et la fierté de Gérard Mullier, c'est que certaines caissières partent à la retraite avec un capital de 600 000 euros. Vous vous rendez compte si c'est formidable de travailler chez Auchan. Il est un provocateur sur le plan économique. Il est économe aussi. Il invite à déjeuner chez Flunch, quand vous allez le voir. Il fait lui-même la vaisselle dans sa grande maison en briques, surtout lorsqu'il y a des invités. Il est passionné de morphopsychologie, de numérologie, et il installe des œufs dans ses bureaux de la Défense près de Paris pour lutter contre quoi ? Contre les mauvaises ondes. Ben là, il y a peut-être eu des mauvaises ondes qui ont fait que ces ouvrières se sont retrouvées à la rue.
Vous êtes riche, vous ?
Moi, je ne suis pas riche, moi.
C'est bien connu, tous les caissières de chez Auchan et puis tout ça, comme elles sont actionnaires de leur entreprise, elles ont des dizaines de milliers d'euros.
Ouais, c'est ça. Bah, je ne sais pas où ils ont vu
pas
ça.
Chez nous, hein.
Pas chez nous. Hein.
Pas chez nous. Je peux vous dire, moi, j'ai 543 euros, exactement. Sur mon compte d'actionnaire, ouais. Maintenant. Alors qu'on ne me dise pas que j'ai des millions d'avance, c'est pas vrai.
C'est simple, la dernière prime qu'on a qui est bloquée, elle fait 190 euros.
Par mois ?
Non, c'est tous les ans et c'est bloqué 5 ans.
Là, vous êtes en train de vous chauffer les bras, vous chauffez les mains au bras zéro, à la petite chaudière que vous avez installée sur le piquet de grève.
3 semaines, oui.
Moi, je viens voir, c'est quand même un peu... si vous voyez, il y a le méchant capitalisme, c'est celui avec les spéculateurs, les traders qui s'achètent des yachts, avec les fonds de pension à New York et tout ça. Et puis il y a le gentil capitalisme, le capitalisme à visage humain. C'est celui de Mullier qui respecte les salariés, une entreprise familiale.
Non, je pense que là, on ne nous a pas respectés.
Ils n'ont pas respecté.
On ne nous a pas respectés parce que rester 3 semaines dehors par le froid, passer 2 réveillons, ici et dire que on est humain, on n'est jamais venu, personne de la direction n'est venu nous voir, nous demander quoi que ce soit. On nous a jamais demandé ce que l'on revendiquait vraiment. Non, on a fait la sourde oreille. Il a fallu qu'on les mette au pied du mur là pour dire voilà, on ne reprendra pas s'il n'y a pas quelque chose. Et là, nous dire oui, mais vos jours de grève, vous devez donner 4 jours de vos CP si vous voulez avoir un salaire décent. En fin janvier.
Je voulais dire que c'est des gains petits, même sur les jours de grève, ils vont pour gratter encore ça.
Tout à fait. On n'a pas eu de personne de chez M. Mullier, de la famille Mullier, venir nous voir et nous dire oh, je comprends très bien, il faut penser à notre avenir.
Vous allez être classé dans le groupe Mullier, c'est un grand groupe.
Vous plaisantez.
C'est un grand groupe. Vous allez aller chez Decathlon. Vous aimez le sport ? Vous aimez quoi ? La voiture, Noroto ?
J'aime le sport, mais je vais vous dire honnêtement, j'ai 53 ans. Même si on ne me voit pas physiquement, je ne les fais pas. Je suis encore dynamique, j'ai peur de rien. J'envoie mon curriculum vitae avec ma photo. Croyez-vous que rien qu'en regardant ma date de naissance, il va se dire « Oh, 53 ans à Decathlon, elle ne va pas faire le triathlon celle-là hein. »
Mais donc, vous, ils vous ont proposé de vous reclasser ou pas ?
Ah non, ils ne proposent pas un reclassement.
Ils ne proposent pas ?
Ah bon ?
Qui c'est qui vous a dit ça ?
Bah, je sais pas, je me disais, c'est un tellement grand groupe.
Ils nous ont mis 3 papiers avec des offres d'emploi. Ils proposaient des places à Kiabi. Il y a combien de personnes qui se sont présentées à Kiabi ? Pas mal ? Une, on lui a dit qu'elle n'était pas motivée. Un deuxième, qu'on lui a dit qu'il n'était pas productif. Le troisième, on lui a dit...
Trop qualifié.
C'est quoi le reclassement ? On postule et après on nous dit non, c'est tout.
C'est pas du reclassement.
Nous avons là aussi pas fait tellement d'économies. Nous avons retenu tout ce que vous avez dit, monsieur Gérard Mullier, depuis le début de cette émission. C'est consigné dans une chanson, dans une ritournelle. Léo ?
Europe 1, 17 janvier 1992.
Bon voyage Gérard Mullier, ce matin vous n'avez pas fait naufrage. Bon voyage Gérard Mullier, comme à Auchan tout a très bien marché.
Pour une fois qu'il est invité, il y a eu beaucoup de publicité.
Mais lui aime bien que ses concurrents dépensent autant d'argent.
Pour nous raconter finalement, en parlant de Thérèse d'Auchan,
qu'une caissière a plus de valeur chez lui qu'un directeur.
Mais alors comment ça se fait? Parce que Mullier, ils ont dans la région là, si on va rien qu'à, je sais pas, à 500 mètres d'ici là, tout à l'heure je me suis trompé de route, je suis arrivé sur une zone commerciale à Tourcoing, il y avait boulanger, il y avait Nord Auto, il y avait quoi, Décathlon, il y avait Auchan.
C'est Ronc.
Pardon?
C'est Ronc.
À Ronc, ouais, Auchan Ronc. Ronc, là juste là, à l'entrée de Tourcoing. Et ils vous ont pas proposé par exemple de vous reclasser dans un de ces magasins ou dans un autre magasin du groupe Mullier?
Non.
Il y a combien de salariés dans le groupe
Dans le groupe Mullier en France, il y a à peu près 300 000 monde et ils sont à peu près 100 000 personnes en France. C'est le cinquième groupe de distribution mondiale. Mondial. Hein.
Benoît Boussemard, c'est celui qui parle à l'instant. Et c'est l'auteur de La richesse des Mulliers, une longue recherche et un bouquin absolument passionnant sur cette famille, sur ce groupe. Le livre est sous-titré « Exploitation du travail dans le groupe familial » et prend pour cible ceux qui dissimulent leurs actes derrière les mots qu'ils parent de vertu et d'amour.
Dans votre livre, vous mettez que quand on dépense 100 euros dans le commerce de détail, en France, 100 euros, sur 100 euros dépensés dans le commerce, il y a 8 euros, c'est chez les Mulliers.
Tout à fait.
8% du commerce.
8% de tout le commerce français. Et ça augmente d'année en année.
Normalement, dans les autres groupes, Danone ferme une usine. Bon, certes, il ferme une usine, mais généralement, il propose des reclassements sur un autre site. Comment ça se fait que là, ils disent pas, bon, il y a Boulanger qui va recruter, c'est à 500 mètres à côté de Neuville-en-Ferrin, il y a Décathlon, il y a Auchan. Hôtesse de caisse à Auchan, ça vous aurait convenu ou pas?
Pourquoi pas? Pourquoi pas?
On vous a pas proposé
non.
ça?
Non, non.
Ça, c'est, disons, une stratégie de longue date de la famille Mullier. C'est-à-dire qu'ils considèrent que chaque enseigne est indépendante l'une de l'autre. Qui est un mensonge éhonté.
C'est-à-dire qu'eux, ils disent, bon, il y a Pimki, ça appartient à la famille Mullier, mais ça n'a rien à voir avec Décathlon, qui appartient à la famille Mullier, qui n'a rien à voir à Noroto, même si ça appartient à la famille Mullier, qui n'a rien à voir avec Boulanger, même si ça appartient à la famille Mullier. Donc, finalement, quand on licencie 200 personnes...
On ne fait rien. De mon point de vue, les 190 licenciements comme les 62 de Xanaka n'avaient aucun objet économique. C'est ça qui est encore bien pire. Ils ont versé Diramod en dividendes sur 10 ans 216 millions d'euros. D'accord ? 216 millions d'euros sur 10 ans.
Diramod, c'est la maison mère de Pimki.
C'est la maison mère de Pimki. Et cette maison mère de Pimki, en plus, sur les 5 dernières années, y compris la seule année de perte qu'ils ont faite, y compris cette année-là, ils ont fait 52 millions d'euros de bénéfices. C'est-à-dire, quand on regarde les taux de profit, ce sont des taux de profit de 20%. Et donc, la honte, c'est des gens comme ça, qui sont la première fortune de France, que moi j'évalue à 25 milliards, et qui jettent des gens sur le pavé, pour se faire de plus en plus de fric, et qui osent dire encore, derrière, qu'ils privilégient l'homme à la place du fric. Ils font exactement l'inverse.
Est-ce que vous avez déjà comparé votre fortune avec celle de M. Mullier?
Moi, je veux bien lui donner ma fiche de paye.
Combien de découvert?
Oh, ben là, je dois être à 500 euros de découvert. Voilà. 500 euros de découvert, donc ben, là, mon salaire est arrivé, il n'y a déjà plus rien. Là, je suis à 76 euros, là, ça y est. Mon salaire est arrivé, il me reste 76 euros.
Il reste 76 euros sur votre compte?
Sur mon compte,
voilà, pour le mois.
76 euros. Mais mon loyer n'est pas payé.
Loyer de combien?
Dans les 250 euros.
Et ces 76 euros-là, c'est toute votre fortune?
Voilà. C'est ça, c'est toute ma fortune.
Vous avez une voiture?
Bah oui.
Ah, vous avez une voiture comme fortune aussi.
Heureusement, heureusement, j'ai une voiture. 10 ans alors, hein, ma voiture quand même. 10 ans.
Ah, donc ça vaut combien l'Argus après ?
Mais moi je suis pas comme Mulier, j'ai pas de Ferrari ou une Lamborghini ou une Porsche. Moi j'ai pas ça. Hein. J'ai pas de toilette en or, hein. Ni de robinet, de salle de bain en or. J'ai pas tout ça moi.
Il a ça Mulier ?
Ah oui, il a tout ça. Ah oui, 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 il a tout ça, oui, oui.
Comment
de
vous savez?
De source sûre, mon ex-mari a travaillé chez Monsieur Mulier. Ah, il faisait la couverture, la toiture.
Et donc il a été voir les robinets?
Oui, plus ou moins, oui, il a demandé à laver ses mains. Donc, mais c'était une salle de bain à part pour eux, parce que quand il est rentré dans la salle... Non, non, ce n'est surtout pas pour vous, cette salle de bain-là. Vous, c'est...
Ah, il y a une salle de bain pour les ouvriers?
Oui, voilà, oui, oui, quand ils viennent faire des travaux, oui, oui.
Monsieur Mulier, il a combien de fortune? La famille Mulier,
oh
c'est combien?
Oh, ben, c'est pas chiffrable. C'est une galaxie, Mulier, c'est... Ouh là là!
Vous allez me dire des chiffres, je vais vous dire plus ou moins, d'accord? C'est le juste prix. C'est la juste fortune.
En chiffres? Ouais. Ouh là, en chiffres. Ouh, j'en sais rien du tout, moi. Oh, c'est avec plein de zéros, hein.
Allez, faites une proposition.
Ben, il est sûrement pas 76 euros, hein. Juste prix, viens, juste Mimi.
C'est combien, la fortune de Mulier, c'est combien?
Oh, ça se chiffre en milliards.
En milliards, en millions, milliards. Milliards.
Une fois qu'il y a 3 zéros, on ne sait plus.
Oui, on est salarié, on est un peu babache, hein, donc on ne sait pas après.
Je sais pas, moi, 760 millions d'euros.
Plus.
Plus. Beaucoup plus. 7 milliards alors.
Plus.
20 milliards.
Ouais, c'est ça, à peu près
20
ça.
20 milliards, oh, ben c'est bien, il pourrait me les donner.
Est-ce que vous avez calculé combien il vous faudrait de temps pour gagner la fortune de Monsieur Mulier?
Oh ben, il me reste 15 ans à travailler jusqu'à ma retraite, j'en ai même pas assez.
Il faut moins 4 vies centenaires pour pouvoir gagner ça.
Vous voulez qu'on calcule? J'ai pris une calculatrice. Est-ce que vous me tenez le poste le temps que je sorte ma calculatrice? Vous me tenez le poste? Là, je sors ma calculatrice.
Elle s'est déjà reclassée. Elle s'est déjà reclassée.
Et voilà, elle s'est déjà reclassée à la radio.
Enfin, moi, c'est moi qui tiens le matos, attention. C'est tout, hein.
J'ai une petite calculatrice, là. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui était fort en calcul à l'école ou qui est caissière? Est-ce qu'il y a une caissière, là? Non, il n'y a pas de caissière. C'est que de la logistique, ici. Alors, on va dire, la vraie fortune de M. Mulier, de la famille Mulier, c'est 18 milliards 300 millions.
Ah, ben, il peut m'en donner un petit peu, ce serait bien.
Alors, là, il ne faut pas se monter dans les zéros. Hein. Ah, il n'y a pas assez de...
Il n'y a pas assez de zéros.
Ah, voilà, tout juste. Tout juste, tout juste. Et vous, vous gagnez combien, alors?
Nous, combien? 1100.
Là, vous tournez le micro un peu plus vers elle quand c'est comme ça. Parce que sinon...
Il ne marche pas, le micro. Non. Il ne marche pas.
Qui marche? 1100.
Je fais une formation de reclassement directement à Joël, là, en radio, en brut, vous savez ou pas? Alors, divisé par 1300, ça fait... On va diviser par 12, on aura le résultat en année tout de suite, d'accord? Donc, il faut que vous travailliez 117 300 années.
Pour gagner la fortune de Mulier. Oui, ça fait plaisir.
Ça sera déjà plus tard.
117 300 années, virgule 6.
Virgule 6,
oui, sans cette
ligne. Alors, j'ai amené autre chose.
C'est les virgule 6 qui vont être plus durs.
Parce que là, l'intérêt, c'est de savoir depuis quand il faudrait que vous travailliez.
Oui.
Bon,
est-ce... Ah oui.
Alors, est-ce que c'est depuis la Seconde Guerre mondiale? Non, c'est avant ça.
C'est avant ça. C'était au temps des Cro-Magnon, non?
Voilà.
Et j'ai raison. Bah oui.
Bah oui. Parce que là, on est à moins 117 000. Ah, paléolithique.
Semble.
On est dans le paléolithique.
Allez, tout nu, allez, on est comme ça.
Qu'est-ce que vous faites, là, tout nu?
Tout nu, bah, je sais pas.
Vous faites chariste chez Pinky dans la caverne, quoi.
J'étais en train de broder sur du silex un t-shirt.
Petit papa Mulier.
Donc là, on est en voiture avec Benoît Boussemard et on fait le Mulier Tour. Alors, le Mulier Tour, l'avantage, c'est qu'il n'y a pas à aller trop loin. Une fois qu'on arrive...
C'est très court.
Donc le cercle, il se joue autour de Croix, sur une dizaine de kilomètres, où on a pratiquement tous les sièges sociaux.
Autour de Lille, dans la banlieue de Lille.
Tout à fait.
Dans la banlieue de...
On est juste au centre ici, il suffit de faire un cercle de 10 kilomètres et pratiquement tout est là. L'AFM qui est ici, ce bâtiment.
Alors c'est là, l'AFM c'est...
L'association familiale Mullier, c'est là où est le président, donc Thierry Mullier, et où sont toutes les grosses sociétés qui contrôlent maintenant le groupe. Donc les SCA sont installées là maintenant.
Donc le pouvoir économique, il est là.
Tout à fait.
On va aller lui poser une petite question à Monsieur Mullier.
On peut lui poser une petite question. Moi, je vais me garer juste là et après, vous pourrez aller lui poser sa question.
Vous voulez pas venir avec moi?
Non, je pense pas que je serai le bienvenu.
Vous pensez que moi, je vais être le bienvenu?
Ah bah ça vaut de voir. Hein. Moi, je suis pas à votre place. Donc, a priori, je sais pas si vous serez vraiment bienvenu. Donc...
C'est ouvert. Vous voulez venir?
Non, je ne sais pas trop. J'attends, je vous attends là.
Vous m'attendez là? Vous venez pas?
Non.
Alors, on arrive au pied de l'AFM, l'association familiale Mullier. Il y a 4 bâtiments. Je ne sais pas trop où est l'entrée. Bonjour madame. Je travaille pour France Inter.
Oui.
Et je réalise un reportage sur les licenciements chez Pimki. Et j'aurais voulu avoir rencontré une personne de la famille Mullier, éventuellement.
Bon, pour l'instant.
Je vous remercie.
Oui. Alors, est à l'accueil un journaliste de France Inter qui veut interviewer un responsable au sujet des licenciements Pimki. Oui, oui, il est à l'accueil.
Bonjour. Eh bien, donc, bah, c'est une question, en fait, simple. Pimki, enfin, Diramod, a fait 10,8 millions d'euros de bénéfices en 2008. Mm-hmm. Pourtant, il va y avoir 190 licenciements chez Pimki. Comment ça se fait qu'on licencie alors qu'il y a des bénéfices assez importants?
Je ne peux pas vous répondre, ça, moi, je ne sais pas. Il faut que vous alliez chez Pimki.
Mais vous êtes quand même un actionnaire principal.
Oui,
de...
mais ça, j'en sais rien. Et moi, de toute façon, j'ai personne... moi, je ne peux pas vous répondre et je n'ai personne pour vous répondre.
Et bon, et c'est vrai, ça faisait écho à la phrase de M. Gérard Mullier, qui prononçait World Forum, où il disait qu'il fallait faire passer l'homme avant le fric. Mm-hmm. Et c'est vrai que bah, ça pose question, quoi.
Je peux pas vous répondre. J'en sais rien.
Et alors, je dois contacter qui pour qu'on...
Il faut que vous alliez voir Eric Van Hendrich chez Pimki, le DG de Pimki.
Mais sur la morale, parce que là, ça, c'est la morale de, Mullier, enfin de la famille Mullier, de, mm-hmm. de l'actionnariat Mullier... qui est mise en cause, et c'est pas M. Van Hendrich qui va répondre pour...
Mais là, j'ai personne pour qu'il puisse vous répondre.
Et est-ce que je pourrais rappeler, éventuellement, et qu'on me passe quelqu'un
rappeler,
de...
Il faut rappeler, mais là,
qui réponde pour le groupe, pas seulement pour Pimki, techniquement,
oui,
mais sur la morale de l'entreprise, quoi.
De toute façon, là, il n'est pas là avant la semaine prochaine, donc...
Et lundi prochain, par exemple, j'aurai une chance?
Même lundi, non, il est en voyage, donc le lundi
mardi.
D'après, le 25, pas avant le 25.
Dans 15 jours?
Oui.
Et il n'y a pas moyen de le joindre sur un portable ou...
Écoutez, laissez-moi vos coordonnées, je vais éventuellement...
Ou une autre personne de la famille Mullier ou...
Non.
Et à la com, qui c'est qui parle, la communication de l'association familiale Mullier?
Personne ne parle,
il n'y a personne qui veut répondre là-dessus.
Non.
Il n'y a personne qui veut répondre là-dessus, en fait.
Non.
Ils sont toujours en voyage quand on pose cette question-là.
C'est vrai, il n'est pas là aujourd'hui, donc je ne peux pas vous répondre.
Bon, j'attends de vos nouvelles au cas où, quand même, madame.
Okay.
Au revoir.
Merci. Au revoir, monsieur.
Au revoir.
Bon voyage, Gérard Mullier. Ce matin, vous n'avez pas fait naufrage. Bon voyage, Gérard Mullier. Comme à Auchan, tout a très bien marché.
N'aimant pas beaucoup voyager, il ne coûte pas à sa société.
Mais en avion, la peur au trip, il a pris une bonne cuite.
Il est fier que sa grande surface ait réuni autant de races.
Pour sa surprise, faire ce dossier l'a fait pas mal gratter.
Bon voyage, Gérard Mullier. Ce matin, vous n'avez pas fait naufrage. Bon voyage, Gérard Mullier. Comme à Auchan, tout a très bien marché.
On est dans la galerie marchande du Auchan de Villeneuve-d'Ascq. Alors, c'est une immense galerie marchande sur 2 étages. Et on est avec une caissière. Ça fait combien de temps que vous travaillez chez Auchan?
Une trentaine d'années à peu près. J'ai commencé en contrat étudiant et j'ai été embauchée par après. On est minuté pour tout. Les pauses, le nombre d'articles qu'on passe en caisse, le nombre de clients, le temps de paiement, les... Moi, je vais à mon rythme, quoi. D'autant que j'ai été opérée des épaules et tout, du mouvement répétitif.
Et ça, c'est à cause du...
Du geste répétitif, oui. Une fois en 2004, une fois en 2006.
Et là, vous avez eu un cadeau à l'hôpital de la direction de champ?
Ah bah non. Non, non.
Une petite pensée, un bouquet de fleurs, des chocolats?
Pas du tout. Pas du tout. Ça se faisait avant. On avait des coups de fil, on avait... Maintenant, c'est même plus un coup... J'étais à l'arrêt 6 mois, j'ai pas eu un coup de fil. Rien.
Et vous faites combien d'heures par semaine?
Moi, 34. Donc 35 et demi avec les pauses.
Ah, parce que les pauses ne sont pas comptées dans...
On doit les faire en plus depuis les 35 heures. C'est pas compté dans le temps de travail effectif. En fait, au passage aux 35 heures, pendant un certain laps de temps, on n'a pas été payé au SMIC.
C'est quand même étonnant. Une firme multinationale qui, pendant quelques temps, ne paye pas ses salariés au salaire minimum.
Alors, c'est pas quelques temps, c'est 7 ans.
Donc,
alors...
pendant 7 ans, les salariés, les caissières, les manutentionnaires n'ont pas été payés au SMIC à Auchan.
Je me suis rendu compte en 2004 que l'entreprise payait pour l'équivalent de 35 heures avec obligation de pointer 37, en gros.
Les salariés étaient obligés de pointer pendant 37 heures et ils étaient payés 35.
Oui, carrément.
Et donc, il y a eu combien de personnes qui ont porté plainte?
Actuellement, il y a 1600 dossiers prud'hommes qui ont été déposés alors par deux organisations, la CFDT et la CGT aussi.
Mais ça, c'est finalement c'est pour faire le bonheur des salariés.
Peut-être bien, ouais.
Oui, parce que j'ai entendu M. Mullier, il explique bien que l'argent ne fait pas le bonheur.
Ah oui.
Regardez Mère Teresa.
Il est gonflé quand même. Ah, non, mais ils en fichent, il en a, lui. Hein. C'est un peu écœurant d'entendre ça.
Alors là, il y a des pistolets là qui se mettent. J'ai vu à l'entrée, j'avais jamais vu ça, j'ai regardé ça de près. C'est un genre de scanner, mais
voilà,
portable.
Vous scannez vos courses au fur et à mesure que vous les faites dans le magasin. Et ensuite, vous présentez une borne de paiement où l'hôtesse contrôle et puis vous payez tout seul.
Donc il y a besoin de moins de Martine.
Ah bah oui, hein. C'est-à-dire que tous les gens qui sont en contrat, qui ne sont pas embauchés, ils ne seront pas embauchés. Quoi. Comme là, il y a une série de contrats qui a terminé samedi.
Donc c'est les contrats précaires, bon, voilà. une fois qu'ils sont finis, on remplace plus. On licencie pas, mais on remplace plus.
On reprend des contrats de professionnalisation plutôt. Ça coûte beaucoup moins cher à l'entreprise et puis c'est de la main-d'œuvre bon marché. Comme ça, ils sont en formation, soi-disant, pendant 8 mois, ils apprennent un beau métier et puis au bout du compte, ils n'ont rien de plus.
Alors moi, je viens ici, c'est pour voir un peu, si vous voulez, il y a le méchant capitalisme. Le méchant capitalisme, c'est les fonds de pension, c'est aux États-Unis, ils achètent des boîtes et puis ils les coulent avec les traders. Enfin, tout ça, c'est de la spéculation, c'est le méchant capitalisme. Et puis il y a le gentil capitalisme, où on respecte les salariés, où il y a de l'intéressement, où il y a de la participation.
Ça, c'était avant. Maintenant, c'est plus comme ça. Maintenant, ça devient un peu le système américain. De toute façon, c'est de la rentabilité, point barre. Le reste après, bon bah, salarié mal dans sa peau, c'est pas grave. Il est là pour bosser, c'est tout. Beaucoup de gens viennent avec des pieds de plomb, quand même.
Et vous avez été fier quand vous avez vu que M. Mullier détrônait Bernard Arnault, autre patron originaire du Nord, hein, en tête des plus grandes fortunes de France?
Ben, ça m'a surtout un peu écœuré. Je me suis dit, ben, il pourrait nous dire merci. Parce que je pense que c'est les gens qui ont travaillé pour lui qui ont aidé à faire sa fortune. Même plus qu'aider, d'ailleurs.
Vous avez eu une prime de première fortune de France, non?
Ah non, pas du tout. Au contraire, on a même eu moins de sous que d'habitude. C'est un menteur.
Pourquoi?
Ah, parce qu'il disait que c'était une grande famille au champ. C'était... Oui, c'est familial et c'est faux. En fait, on s'aperçoit que... Tout ce qui intéresse la famille Mullier, en gros, c'est de gagner des sous, c'est tout. Sans considérer les gens, c'est... Les gens qui lui font gagner de l'argent, d'ailleurs.
L'argent, ça fait pas le bonheur.
Ça fait pas le bonheur, celui qui a dit ça.
On peut dire ça quand on en a beaucoup, Monsieur Mullier.
Et un sacré menteur, l'argent.
L'argent,
ne fait pas le bonheur.
Ça fait pas le bonheur.
Allez raconter ça à votre percepteur. L'argent,
ça fait pas le bonheur.
Ne fait pas le bonheur. Qui a dit ça?
Monsieur Mullier
est un sacré farceur.
Mais aujourd'hui, quand même, pour beaucoup, l'argent compte, parfois au centime près.
N'empêche que les gens qui ont été sans doute les plus heureux dans leur vie et dont on parle, hein, Sœur Teresa, Sœur Emmanuel, l'abbé Pierre, ont une vie pleinement heureuse. L'argent, ça fait pas le bonheur.
Il est gonflé quand même. Non mais, il s'en fiche, il en a lui. Hein.
L'argent, ne fait pas ça le fait bonheur. Pas le bonheur.
Nous quand on nous dit ça, on ferait un malheur.
Au 84 rue de la Rochefoucauld.
À Roubaix, oui.
À Roubaix, on est dans un entrepôt où il y a des tas de machines à laver, des sèches-linges, des fours. J'ai posé mon magnétophone sur une machine à laver et à sécher, oui. Brandt, oui. Qui fait du 1300 tours minute, oui. Et qui est à vendre pour 599 euros.
Oui, c'est à peu près moins 30% du prix magasin, d'accord.
Mais alors, monsieur Casser, on n'est pas venu pour vous voir, en fait, pour que vous nous vendiez une machine à laver.
Non, je sais bien, je suis bien au courant.
On est venu pour vous, parce que vous êtes un ancien ouvrier de chez Mullier.
Oui.
Mais de chez Mullier textile, vous.
Oui. Alors, j'étais chez Mullier Textile, alors c'était en 83 à la filature Saint-Lévin. Et au fil des années, on s'est aperçu que petit à petit, le fil fantaisie se faisait en Italie, notamment, avec des coûts quand même moins chers, de la main-d'œuvre et tout ça. Et après, c'était quand même la Turquie.
Il y avait combien de salariés quand vous êtes rentré en 83?
Moi, quand je suis rentré en 83, on était pratiquement entre 900 et 1000 personnes.
Et maintenant, il en reste combien?
Maintenant, malheureusement, c'est terminé. C'est fermé depuis 2004 et on a fermé, il y avait à peu près 400 personnes.
Et qu'est-ce qu'ils sont devenus les autres salariés, vous savez?
Oui, oui. Je pense que la mairie de Ouattrolo a pris, je pense, 5-6 personnes de la filature Saint-Lévin. Je les ai rencontrés, ils sont même des clients à moi aujourd'hui, ce sont des clients. Là, ils ont été embauchés. Peut-être 2-3 personnes à Roubaix. Mais hormis ça, il n'y a pas grand-chose. Hein. Je veux dire, il n'y a personne qui a trouvé du travail. Hein.
Alors, si on regarde ce qui est devenu le textile, l'usine a fermé, il y avait 1000 salariés, il y en a zéro. Mmh. Et il y a pas mal d'anciens salariés qui se trouvent au RMI ou dans la galère, quoi, on va dire. Ouais, ouais. Et de l'autre côté, en revanche...
Les patrons des industries textiles, effectivement, notamment, on va parler des Mullier, puisqu'on y est, on va parler des Mullier, qui font des Semfol avec les Auchan, tout ce que vous voulez, Décathlon, tout ça leur appartient, hein, je veux dire.
Donc eux... l'usine a fermé, mais eux, ils ont réussi à se reconvertir.
Eux, ils ont réussi à se convertir, et très bien même à se convertir, je veux dire...
Que les salariés, ils sont restés un peu mous.
Oui.
Ils se reconvertissent pas, les salariés. Non, ils sont mous.
Vous savez, quand vous avez travaillé, je dirais, 25-30 ans dans le textile, et que derrière ça, l'entreprise n'a pas fait son travail, c'est-à-dire au moins de leur apprendre d'autres métiers qui étaient les métiers d'avenir qu'on parle aujourd'hui. On était tous payés au SMIC, je veux dire. Alors qu'à l'époque où les Mulliers avaient Saint-Lévin, on parlait beaucoup de fil fantaisie, où là, ils gagnaient énormément d'argent. Que ce soit les Mulliers, que ce soit tout ce que vous voulez, les familles, eux, ils ont gagné énormément d'argent.
Ah, c'est un patronat dur, hein. Le patronat textile a toujours été un patronat très dur. Enfin, moi, personnellement, je n'ai jamais vu, et je n'avais jamais vu jusqu'à présent, la famille Mullier payer un seul jour de grève. Une des grandes victoires des Pinky, ici, cette fois-ci, sur le conflit, c'est d'avoir obtenu... pas la totalité, mais d'avoir obtenu déjà le paiement de 4 jours de grève. Ce qui est absolument exceptionnel. Je n'ai jamais vu ça dans la famille Mullier. Jamais.
Madame, j'ai vécu 10 ans dans l'industrie textile.
La chaîne parlementaire.
Avant de monter au champ.
6 janvier 2009, Gérard Mullier.
Et c'est pour les ouvriers du textile que j'ai monté une entreprise dont l'objet social était d'améliorer le pouvoir d'achat des populations environnantes. Ça n'a jamais changé. Je me suis battu pour le faire. J'ai inventé des trucs. J'ai osé des trucs que les autres ne faisaient pas. Et quand vous vendez moins cher, comme on m'avait appris aux États-Unis en son temps, M. Trujillo disait, les pauvres ont besoin de prix et les riches les adorent. D'ailleurs, chère madame, pour être riche, il faut dépenser moins qu'on ne gagne.
Ainsi parle Gérard Mullier, et on va retrouver Benoît Boussemard, l'auteur de La richesse des Mulliers.
Monsieur, alors j'ai lu là, parce qu'il a été au forum de l'économie responsable, et moi j'aime beaucoup l'économie responsable.
Ah bon?
Donc, ouais. Donc,
Je pense que c'est du baratin tout ça, mais c'est pas grave.
Ouais, vous m'attristez là.
Oui, désolé, je peux pas faire mieux.
On a un jeune homme là dans l'assistance, tu t'appelles comment?
Lucas.
Lucas. On a Lucas dans l'assistance. Et donc, t'as quel âge ?
13 ans.
peux faire un peu Jacques Martin, moi, ici, de temps en temps. on a... Là, Gérard Mullier, donc c'est le grand patron. Mmh. C'est, je pense que ton père et ta mère, ils vont bien t'expliquer que plus tard, c'est à lui que tu dois ressembler. C'est bien ça?
Non.
Non.
Je préfère qu'il garde son caractère et sa dignité, je veux dire, qu'il reste humain.
Il n'est pas humain, Gérard Mullier?
Pas pour moi. Après ce que j'ai vu pendant 3 semaines, pour moi, c'est pas quelqu'un d'humain. Laisser des mères de famille dehors par le temps qu'il a fait, le froid qu'il a fait, Noël, Nouvel An, même un chien, je veux dire, on le laisse pas dehors par du temps pareil, je sais pas moi.
Alors là, il explique à Lucas, Gérard Mullier, comment il a fait fortune. Et il explique bien, mes parents m'ont accordé un lopin de terre de 5 mètres sur 7 pour cultiver des radis, des salades et des fleurs. J'ai eu la chance de pouvoir m'occuper du poulailler, de leur vendre les œufs. On avait nos cages à lapins qu'on vendait aussi à nos parents. On ne m'a donc pas donné mon premier argent et j'ai pu démontrer à mes parents que je n'étais pas aussi con que mes études primaires et secondaires ont voulu le dire. T'as des choses à prouver de ce côté-là aussi ou pas?
Non.
Donc, ce qui explique que Gérard Mullier en long, en large, en travers, c'est... Le self-made mine américaine. Je me suis fait tout seul.
Oui, c'est tout à fait ça. Sauf que c'est des histoires, je veux dire, des radis ou des machins. Bon, effectivement, il paye ses salariés avec des radis, ça c'est clair. Ça c'est assez clair. Je veux dire, il n'aurait pas fait cette fortune-là sans payer de façon minable l'ensemble des salariés qu'il a eu depuis le départ, c'est clair.
Qu'est-ce que c'est son idée de génie ?
Son idée de génie, c'est de copier ce qu'ont fait les Américains, d'une part. Donc il n'a pas d'idée de génie de ce côté-là, puisqu'il a été chercher ses idées aux États-Unis, et qu'aux États-Unis, c'était déjà très courant. Il a copié ensuite et il a imité ce que faisait Leclerc. Il a imité également ce que faisait le patron de Carrefour quand il a créé ses Carrefours. La seule chose innovante qu'il a faite, c'est d'élargir ce concept à ce qui était une caractéristique du Nord. On aime bien le patrimoine foncier dans le Nord, on aime bien la terre. Et donc il a élargi ça en faisant des galeries tout autour de ses hypermarchés et en créant des galeries marchandes. Et ça marche très bien, puisque Immochamp est une des deux grosses sociétés du groupe Auchan et que ça gagne énormément d'argent.
C'est-à-dire qu'auparavant, on faisait des hypermarchés ou des supermarchés, mais sans galeries marchandes.
Oui, sans trop de galeries marchandes, c'était pas vraiment le cas, oui.
Donc lui, il a fait la galerie marchande et puis il a fait tous les magasins qu'on met autour de l'hypermarché, les Nord Auto, le Roi
Merlin.
Donc
ça, c'est ses cousins, c'est ses frères, c'est tout ça. C'est toute la famille qui a créé ça dans tous les coins.
Self-made man, à l'américaine, un homme qui s'est fait tout seul?
Certainement pas. Pourquoi? Pour une raison très très simple, c'est qu'il n'a pas créé ses sociétés avec des radis. Il a créé des sociétés avec l'argent de la famille. Et s'il n'y avait pas eu l'argent de la famille, Auchan n'existerait plus. C'est-à-dire que son premier magasin qu'il a fait, effectivement, était un petit magasin sur Roubaix. Mais il a été aidé pendant des années, les 6-7 premières années, par l'argent que la famille Mullier avait. Sans cet argent-là, il n'aurait jamais pu continuer.
Mais alors, de où
et c'est... donc ces radis, c'est pas ces radis, ces carottes qu'il a accumulées pendant peut-être 10 ans qui lui ont permis d'avoir les centaines de milliers de francs qui étaient nécessaires à l'époque pour faire ça.
Enfin, de où il vient l'argent qu'il a eu pour démarrer?
Il avait des activités dans le textile ici nordiste. Hein. Il avait une activité de filature, il avait une activité de teinture et il avait une activité de fil à tricoter. Donc c'est les fameuses marques fil d'art.
Et donc, ils ont accumulé de l'argent dans le textile.
Oui,
et lui, il a recyclé au moment où le textile était en train de décliner. Mmh. Il l'a recyclé dans la grande distribution.
Tout à fait, c'est ça. Donc c'est une reconversion particulièrement bien réussie du fonctionnement du système.
On range les chaises. On débarrasse pour le retour au boulot. Ça, c'est la liste de tous ceux qui ont versé des sous, c'est ça?
Oui. Attends, le drapeau là sur la table, on verra après.
La tente est en train d'être démontée.
Sylviane, Valérie, Maria, Rachid, Bouzid et toutes les ch'tites de Pimki, merci. Merci à Benoît Bouchemard, Alain Bocquet, Radio Campus Lille et à l'Association des Anciens du Peignoir d'Atosset. Le livre « La richesse des Mulliers » de Benoît Bouchemard a été publié par les éditions Est un puits en novembre 2008. C'était une enquête de l'inspecteur François.
C'était « Si l'argent ne fait pas le bonheur », rendez-le, une nouvelle diffusion d'un reportage de François Ruffin. Vous pourrez trouver toutes les informations nécessaires sur le site de France Inter. À la technique aujourd'hui, Éric Morin et Michel Bézikian, réalisation Dimitri Gronoff et Chloé Sanchez, assistée de Pierre-Yves Bulteau. Et Solène Cordier attend vos messages au 01 56 40 37 37.
Chérie, tu sais qu'en tant que fonctionnaire, on a aussi droit aux chèques vacances ?
T'es sûre ?
Mais oui, les chèques vacances, c'est pour les fonctionnaires autant que pour les salariés. C'est valable pour toutes nos vacances et pour nos loisirs. Il suffit de les demander.
Ok, je sors les valises.
Pour vous, fonctionnaires, l'État élargit les conditions d'accès aux chèques vacances. Rendez-vous vite sur ancv.com pour calculer votre pouvoir d'évasion. C'était un message du ministère de la Fonction publique et de l'ANCV.
Vous avez déjà cassé un verre, cassé des œufs et même cassé l'ambiance. Et si vous cassiez votre vieille chaudière pour gagner 700 euros ? Jusqu'au 15 novembre, les fabricants doublent la prime à la casse des distributeurs EcoFuel. 700 euros offerts pour l'installation d'une chaudière fuel à condensation économe en énergie, ça, c'est une offre à tout casser.
Conditions sur solutionfuel.fr ou au 0800 82 3 fois, appel gratuit. Contactez votre distributeur EcoFuel avant vos travaux. L'énergie est notre avenir, économisons-la.
France Inter et le Nouveau Théâtre de Montreuil présentent, du 24 septembre au 14 octobre, Une Faille, saison 1, un feuilleton théâtral en 8 épisodes, conçu et mis en scène par Mathieu Bauer, texte Sophie Morère, scénario Sylvie Coquart-Morel. Dans la ville, un immeuble vient de s'effondrer. Sous les décombres, 5 survivants. À la surface, les secours, le politique, les habitants cherchent les causes du drame, ses responsables. Une fiction polar pour mieux nous parler de notre monde. Retrouvez Une Faille, saison 1, dans les émissions de France Inter et sur franceinter.fr.
France Inter présente « Vous n'avez encore rien vu », le nouveau film d'Alain René au cinéma le 26 septembre. À l'annonce de la mort d'un célèbre metteur en scène, tous ses amis comédiens se retrouvent dans sa maison. Sabine Azéma, Mathieu Amalric, Pierre Arditi, Anne Consigny, Annie Dupéret, Lambert Wilson, Hippolyte Girardot, Michel Piccoli, Denis Podalydès. Ils ont tous interprété au fil des années son Eurydice. Retrouvez Lambert Wilson dans Downtown ce soir à 18h20.
Après le journal, Frédéric Lodéon, vous écoutez France Inter, il est 16h. Et le flash est présenté par Laetitia Gaillet.
Le dossier AZF est loin d'être clos. La défense a décidé cet après-midi de se pourvoir en cassation après l'arrêt rendu par la cour d'appel de Toulouse aujourd'hui. Elle a condamné à de la prison ferme le directeur de l'usine AZF Grande Paroisse qui a explosé et à un an de prison ferme. Donc le total, le propriétaire de l'usine écope lui d'une amende de 225 000 euros. La négociation sur le budget pluriannuel de l'Union européenne pour la période 2014-2020 a tourné aujourd'hui au dialogue de sourds à Bruxelles entre les partisans comme l'Allemagne et la France d'une réduction et les pays les plus pauvres qui s'y opposent. Du coup, voilà qui hypothèque les chances d'un accord pour le sommet extraordinaire des 22 et 23 novembre prochains. Concernant le traité de stabilité budgétaire européen auquel les Verts ont dit non ce week-end, on attendait la voix de Cécile Duflot. La ministre du Logement n'a pas encore dit si elle votera le texte au nom de la solidarité gouvernementale ou si elle votera contre au nom de la solidarité avec son parti. Elle devrait le dire ce soir. Cécile Duflot sera l'invitée du journal de 20h de France 2, mais déjà dans une interview accordée à Paris Match, la ministre du Logement affirme aujourd'hui qu'elle ne démissionnera ni du gouvernement ni d'Europe Écologie Les Verts. Confirmation également de François de Rugy, le président du groupe des Verts à l'Assemblée nationale. Les deux ministres écologistes ne quitteront pas le gouvernement malgré l'opposition de leur parti au traité européen. L'Allemagne renonça à fermer son consulat général de Strasbourg. La décision a été prise par le gouvernement allemand à l'occasion des célébrations autour des 50 ans d'amitié franco-allemande. Le ministre délégué aux Affaires européennes s'en réjouit aujourd'hui. Selon Bernard Cazeneuve, dans un contexte budgétaire restreint, cette solution permet de préserver une présence diplomatique et consulaire correspondant aux importants enjeux européens et internationaux liés à Strasbourg. Royal Bank of Scotland assourdit son projet de suppression de postes. Elle va donc en supprimer 3800 dans son activité banque d'investissement d'ici la fin de l'année prochaine, soit 300 de plus qu'initialement annoncé. La banque est détenue à 82% par le Trésor britannique depuis son sauvetage pendant la crise financière de 2008. Les syndicats de TIGF, filiale de Total, ont déposé un préavis de grève aujourd'hui, un préavis en réponse à l'annonce en fin de semaine dernière de la cession par Total d'une partie de ses actifs pour un montant avoisinant les 20 milliards d'euros. Les syndicats de TIGF craignent que leur entreprise fasse partie du lot. La grève, en revanche, est finie dans le magasin IKEA de Roissy, Paris Nord, à Gonesse, dans le Val d'Oise. Syndicats et direction sont parvenus à un accord aujourd'hui. La CGT, FO et la CFDT dénonçaient un sous-effectif chronique et des changements d'organisation qui remettaient en cause les jours de repos repos fixe et le temps de travail à salaire majoré, c'est-à-dire les nuits et le dimanche. SFR se lance dans la téléphonie mobile 4G. L'opérateur annonce aujourd'hui qu'il sera le premier en France à lancer fin novembre à Lyon la commercialisation. Pour l'occasion, de nouvelles formules, offres et tarifs seront proposés. Une vingtaine d'habitants d'un immeuble de Mont-de-Marsan ont été évacués ce matin de leur logement. 6 obus datant de la Seconde Guerre mondiale ont été découverts sur un chantier proche également d'une école. Les services de déminage les ont enlevés dans la journée. Enfin, il y en a qui ne doutent de rien. Le train à grande vitesse entre Moscou et Saint-Pétersbourg en Russie a dû être arrêté aujourd'hui en rase campagne. 3 jeunes gens étaient sur le toit du train qui peut rouler jusqu'à 250 km/h par endroit. Vous écoutez France Inter, 16h03.
Cette semaine, dans le Pont des Artistes, Isabelle Dordain reçoit.
On n'a qu'une vie, t'as fait ton choix.
Robert Charlebois.
T'as eu envie de la vivre avec moi.
Céline Olivier.
Il y a eu tant de fois que seule Jane, tu vois. Je t'écoutais en boucle du bout du doigt. Je te lisais sur papier glacé.
Salomé Leclerc.
On garde les. En se balançant, si la nuit cache nos pas.
Et Buridan. Pour assister à l'enregistrement de l'émission, rendez-vous mercredi à partir de 18h devant la porte B de la Maison de Radio France. Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles.
Excusez-moi, mais il n'y a personne pour leur dire d'arrêter là.
Oui, non.
Mais attends. Et ils inventent tout ça juste pour qu'on écoute.
Oui, enfin en tout cas, il paraît que les informations, c'est pas vrai. Alors, France Inter.
Si ça continue, ça finira jamais. Hein.
La voix est libre.
Et non, ça ne finit jamais puisque ça continue sur Inter. C'est avec vous, Frédéric L'Odéon.
Et bonjour. Oui, bonjour Laetitia Gaillet.
Carrefour de l'Odéon, avec le Festival d'Île-de-France. 29 concerts en septembre et octobre, dans 26 lieux du patrimoine francilien.
Carrefour de l'Odéon. Bonjour à tous. J'ai eu la chance d'assister aux deux concerts de rentrée de l'Orchestre Symphonique de Mulhouse, vendredi et samedi, et c'était absolument formidable, parce qu'évidemment, on parle beaucoup de Paris, on parle de Lyon, on parle de Nantes, je ne sais trop citer toutes les villes, bien sûr, il y a de la musique, de Bordeaux, et à Mulhouse, eh ben, il s'en passe, et de Belle, je peux vous garantir que le niveau était vraiment supérieur. Quelquefois, on dit, les journalistes parisiens ne se déplacent pas, ils ne vont pas écouter ces concerts, c'est bien regrettable, mais je peux témoigner que interprétation de Petrouchka, de Stravinsky, de Daphnis et Chloé, de Ravel et du génial Boléro était vraiment absolument magnifique. La salle était debout en pleine liesse, l'orchestre content et content aussi de son chef Enrique Mazzola qui a fait un travail formidable, qui a donné une énergie magnifique, espiègle parfois et surtout il était plein de musicalité, de précision, c'était vraiment un bol d'air et une entente entre un orchestre et un chef, vous savez, c'est pas si fréquent et ça mérite d'être noté. Il faut aussi féliciter Enrique Mazzola qui a été nommé chef de l'Orchestre National de l'Île-de-France, donc on aura l'occasion de le recevoir, de l'entendre prochainement. Et il y a les anciens aussi, par exemple le Beaux-Arts Trio, oui, c'est un ensemble qui a fait une carrière absolument extraordinaire, ils ont changé parfois de violoniste, de violoncelliste, le pianiste ça a toujours été le même, Menahem Pressler, et on nous envoie là maintenant un enregistrement assez ancien, même très ancien, ça date de 1960, et malgré l'enregistrement un peu lointain, je parle de la technique pure et simple, on peut noter le fantastique tempérament de ces trois-là qui, bien que pratiquant de la musique de chambre, pouvaient remplir les plus grandes salles. Voici un extrait allegro du premier trio avec piano de Johannes Brahms. Thank you.
Thank you.